VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Brazzaville, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. En RCA, Bukaranga, dans le nord-ouest du pays, libéré par la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place. Les casques bleus ont repris le contrôle de la ville aux éléments du groupe armé des 3R à la suite d'un raid lancé samedi. L'opération se poursuit, mais aucun bilan n'est encore disponible. Les détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'offensive de la MINUSCA est intervenue 3 jours après l'expiration d'un ultimatum de 72 heures lancé au général Abbas Siddiqui et son groupe 3R pour quitter la ville assiégée durant 3 semaines. La force onusienne a engagé d'importants moyens, y compris des hélicoptères de combat. Selon Vladimir Monteiro, porte-parole de la mission de l'ONU, Bukaranga est entièrement sous contrôle des casques bleus et l'opération devra se poursuivre jusqu'à Bong, une autre localité contrôlée par les hommes du général Bahar de l'ex-Séléka.
Les premiers objectifs ont été atteints, c'est-à-dire le départ des éléments armés. Il faut s'assurer que ceux qui sont partis ne reviennent pas. Prendre des dispositions, contrôler les endroits, ce qui est déjà le cas. Et se poursuit par rapport également à Bank, qui faisait partie, tout comme Boko Angora, des objectifs de cette mission.
Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. Entre-temps, des scènes de pillage à grande échelle ont été rapportées. Des maisons de particuliers, y compris des ONG locales, ont été systématiquement pillés par les assaillants avant d'être délogés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Fin de la campagne électorale au Liberia, où les électeurs doivent choisir demain un successeur à la présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui ne peut plus se représenter après 2 mandats. Le point avec Nathalie Barge.
Pendant les derniers jours de campagne, les plus grandes foules ont été mobilisées par le sénateur et ancien footballeur George Weah et sa colistière Jewel Owen Taylor, ex-épouse de l'ancien président Charles Taylor. Sur les 20 candidats en lice, d'autres se détachent, dont l'ex-ministre Charles Brumskine et le vice-président sortant Joseph Boakai et l'homme d'affaires à la retraite Alexander Cummings. Il faut noter la présence de l'ex-chef de milice Prince Johnson, aujourd'hui sénateur, qui a assassiné le président Samuel Doe en 1990. Le mania des télécoms, Benoni Urey, est aussi dans la course, tout comme l'unique femme à se présenter, Magdela Cooper, ancien mannequin. 73 membres de la Chambre des représentants seront également élus mardi. Ce scrutin sera le premier à se tenir sans le soutien des casques bleus.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Kenya, des milliers de partisans de l'opposition ont une nouvelle fois manifesté pour réclamer des réformes en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre après invalidation du scrutin du 8 août. Plus de précisions avec Jacques Aristide.
Le rassemblement le plus important a réuni, d'après l'AFP, quelque 3000 personnes à Kisumu, un des bastions du leader de l'opposition dans l'ouest du Kenya. Il s'est dans un premier temps déroulé dans le calme, puis la police est intervenue utilisant du gaz lacrymogène. À Nairobi, environ 2000 personnes se sont mobilisées dans un parc où plusieurs leaders de la coalition NASA se sont relayés pour réclamer de nouveau un remaniement en profondeur de la commission électorale. Toutefois, pas de grande manifestation à Mombasa où se trouvait le président Uhuru Kenyatta en pleine campagne. L'opposition estime inutile de battre à campagne pour une élection qu'elle menace de boycotter si ses revendications ne sont pas satisfaites. Par ailleurs, dans un rapport publié ce lundi, la Commission nationale kenyane des droits de l'homme indique que la police kenyane a tué 35 des 37 personnes mortes dans les violences qui ont suivi la présidentielle du 8 août, dénonçant un usage excessif de la force. La commission ajoute n'être pas en mesure de déterminer si cet usage était prémédité et ciblé, mais que son analyse montre clairement que la majorité des victimes appartiennent à la même ethnie et viennent de bidonvilles.
Et pour terminer, relations France-Rwanda, le juge français qui enquête sur l'attentat de 1994 contre le président rwandais Juvenal Habyarimana a ordonné la confrontation d'un nouveau témoin qui corrobore les accusations contre le régime actuellement au pouvoir à Kigali avec 2 personnes déjà mises en examen, dont le ministre de la Défense. Ce témoin affirme avoir eu la garde au quartier général de l'ex-rébellion Tutsi de 2 missiles anti-aériens qui ont selon lui servi à abattre l'avion du défunt président Habyarimana, sur ordre de son chef Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda. Merci de votre attention.
Jacques Aristide pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Le Congo-Brazzaville veut renégocier avec ses créanciers les termes de sa dette, estimée à 110% par le Fonds monétaire international. Un tel programme a déjà été conclu avec d'autres pays d'Afrique centrale, frappés par la chute des prix du pétrole. Le FMI a ainsi accordé en juin un prêt de 642 millions de dollars au Gabon. La dette du Congo est évaluée à 5329 milliards de francs CFA, sans les dettes litigieuses ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 2014. Le FMI avait confirmé début août que le Congo avait caché une partie de sa dette. L'entreprise Bouygues Énergie et Services annonce la fin de ses activités au Gabon après environ 70 ans de présence. La décision a suscité l'incompréhension et la colère des 223 employés. La compagnie affirme qu'ils recevront jusqu'à 18 mois de salaire en fonction de l'ancienneté. Le syndicat a dénoncé le caractère inhumain de cette décision alors que les Gabonais ne bénéficient pas d'allocations chômage. Le groupe Bouygues conserve deux autres filiales dans le pays, notamment dans le bâtiment et travaux publics. Le Soudan espère que la levée de certaines sanctions américaines à partir du 12 octobre permettra de mettre fin à son isolement des marchés internationaux. Le pays est confronté depuis des années à des déficits budgétaires à répétition et à une forte inflation. L'embargo économique a été imposé par Washington depuis 1997 pour le soutien présumé de Khartoum à des groupes islamistes.
VOA Afrique, dites-le à un ami.
Wale Suleiman.
Je t'aime. une du monde aujourd'hui. Nouvelle manifestation de l'opposition kényane pour réclamer des réformes avant les élections.